la dernière fois pour entrer dans la philosophie première, je vous ai rappelé quelques aspects essentiels au plan philosophique pour comprendre comment le problème de la philosophie première, ce qu'on appelle métaphysique, et que je vous ai dit qu'il valait mieux dire philosophie première, comment ce problème de la philosophie première est ultime parmi les diverses expériences que nous avons, et en même temps, d'une certaine manière, en tant que croyant, en tant que chrétien, le problème peut se poser immédiatement. Je crois que c'est toujours important de saisir ces deux aspects. Bon. Au niveau proprement philosophique, c'est vraiment ultime, en ce sens que nos expériences habituelles ne nous mettent pas en présence du problème métaphysique. Donc, une philosophie de l'expérience pourrait très bien ne pas être une philosophie qui aboutit à la philosophie première et à la métaphysique. Il faut le comprendre, que nos expériences sont nécessairement l'exercice de notre intelligence liée à nos sensations, liée à notre imagination. C'est-à-dire que nos expériences représentent quelque chose d'immédiat, qui représente notre conditionnement humain relativement aux réalités qui sont proches de nous. Les réalités que nous pouvons toucher, sentir, voir, manger, transformer, dominer. Le point de vue de la philosophie première ne peut naître que lorsqu'il y a une attitude de réflexion sur ce que représente l'exigence de toutes ces expériences, la découverte du jugement d'existence. La découverte du jugement d'existence qui est comme la condition nécessaire, condition sine qua non, de toutes nos expériences. Alors vous voyez, ça fait comprendre comment si facilement on considère la métaphysique, la philosophie première, à cause de cette attitude réflexive, comme une philosophie qui demande, pour naître, de réfléchir sur la vie de l'intelligence. Et non pas de réfléchir sur nos expériences. Il y a deux attitudes de la réflexion. Il y a cette réflexion que nous faisons sur nos expériences pour saisir que toutes nos expériences impliquent le jugement d'existence. C'est bien une attitude réflexive, mais une attitude réflexive qui n'est pas une réflexion sur la vie de l'intelligence. C'est tout simplement comprendre ce qu'il y a de fondamental et de premier à toutes nos expériences. Je reste donc là dans une attitude de réalisme et d'objectivité. Mais on peut très facilement glisser en disant que la métaphysique ne peut naître qu'à partir d'une réflexion sur la vie de l'esprit. Alors, vous avez à ce moment-là le cogito, vous avez le intelligo d'Occam, qui consiste justement à dire l'intelligence ne peut entrer en métaphysique qu'à partir d'une attitude réflexive. Il y a quelque chose de juste, c'est que la métaphysique n'est en effet pas quelque chose d'immédiat. Elle implique quelque chose de réflexif. Mais une attitude réflexive, non pas sur la vie de l'intelligence, mais sur le contenu même de l'expérience. Je crois que c'est important de souligner cela pour comprendre qu'il y a en effet dans le point d'entrée dans la philosophie première quelque chose qui n'est pas donné immédiatement. Et ce qui fait que instinctivement on pourrait dire mais c'est pas la peine. C'est pas la peine de problème métaphysique, c'est pas la peine de problème de la philosophie première, ou au contraire dire le problème de la philosophie première, c'est le problème de la réflexion sur ma vie intellectuelle dans ce qu'elle a de plus essentiel. Et alors à ce moment-là, on confondrait philosophie première et critique. Mais quel est le fondement, la condition sine qua non de ma vie intellectuelle ? Ce serait donc l'aspect critique. La critique cherchera quel est le conditionnement de ma vie intellectuelle, qu'est-ce qu'il y a de tout à fait premier dans ma vie intellectuelle, alors que la métaphysique commence en voyant la condition sine qua non de toute expérience. Je crois que c'est important de voir ces deux aspects. Je les souligne et vous allez saisir, j'espère. Les expériences sont immédiates. L'expérience du travail, de l'amour d'amitié, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fonde ces expériences? Le fondement de ces expériences, du côté du contenu de l'expérience, c'est le jugement d'existence. Vous n'avez pas d'expérience immédiate du jugement d'existence. Vous n'avez pas une expérience pure du jugement d'existence. Ceci est. Vous avez quelque chose d'immédiat à travers l'expérience. D'une certaine manière, il n'y a rien de plus immédiat que le jugement d'existence, puisque c'est le fondement de toutes mes expériences. Mais d'une autre manière, ça exige toujours un certain dépassement. Il faut dépasser le conditionnement normal de mes expériences pour découvrir ce qu'il y a de fondamental. Posez-vous maintenant la question, donc il y a une certaine attitude de réflexivité, si vous voulez. Je réfléchis sur le fondement, la condition sine qua non. Pour mettre ça en pleine lumière, si maintenant je dis non pas réflexion sur mes expériences, mais réflexion sur mon intelligence. Mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, de mes opérations intellectuelles. Quelle est la condition sine qua non de toutes vos opérations intellectuelles? Il faut se poser la question, pour avoir le pendant, vous voyez? Le pendant du côté, c'est-à-dire avoir le parallèle du côté métaphysique, jugement d'existence, qu'est-ce qu'il y a dans l'attitude de réflexivité, non plus sur le contenu de l'expérience, mais sur la vie de l'intelligence. Je réfléchis sur la vie de l'intelligence. Quelle est la condition sine qua non de toute ma vie intellectuelle? C'est intéressant à mettre les deux pôles, parce que là, on saisit mieux ces deux aspects qui se correspondent, hein, mais qui sont très différents, qui sont justement tout à fait différents, parce que ici, c'est l'aspect subjectif. Si vous voulez, si je prends les termes objectif et subjectif, ici je suis en face de l'objectivité la plus grande. L'objectivité la plus grande, elle m'est donnée dans le jugement d'existence. C'est évident que c'est le jugement d'existence qui me donne le réalisme le plus grand à l'égard de l'autre qui m'échappe. Et donc c'est vraiment là où je suis en face de l'objectivité la plus grande. De l'autre côté, au contraire, je cherche quelle est la condition sine qua non de ma vie intellectuelle. Il faudrait que vous le cherchiez, que vous le trouviez. Quelle est la condition sine qua non de ma vie intellectuelle? Autrement dit, le nœud sur lequel, de fait, toujours la critique va revenir. Exactement comme la métaphysique, une fois que j'ai compris que ce jugement d'existence est quelque chose de fondamental un au-delà de toutes mes expériences, j'y reviens tout le temps, en philosophie première. Bien, la condition sine qua non de ma vie intellectuelle, c'est, je crois, le concept. Le concept de l'appréhension. L'appréhension est l'opération élémentaire, et l'appréhension implique un concept. Je pourrais aller jusqu'au bout et dire la condition élémentaire de toute ma vie intellectuelle, c'est le concept de l'être. Parmi tous les concepts, quel est le concept le plus fondamental? Mais c'est le concept d'être. Je crois que je peux dire donc que toute la condition sine qua non de ma vie intellectuelle, du côté critique, c'est ce concept d'être. Et avec le concept d'être, les concepts des transcendantaux. Puisque tout de suite, dès que j'ai le concept d'être, j'ai le concept des transcendantaux. Vous voyez que nous touchons là les deux aspects de fait de la métaphysique telle que Aristote et saint Thomas le donnent et telle que Suarez le donne. Sous ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir ce parallélisme. Parce que ça nous fait comprendre deux attitudes, toutes les deux qui ont compris qu'en effet, la métaphysique naissait à partir d'une réflexivité. Mais quelle réflexivité? Quelle réflexion? C'est bien quelque chose de fondamental. C'est très très vrai. C'est quelque chose de fondamental. Mais le fondamental de l'expérience et du contenu de l'expérience, ou le fondamental du contenu de ma pensée, du cogito. Descartes ne va pas assez loin en parlant du cogito. C'est le fondement du cogito. Comment le cogito peut-il exister? Comment l'intelligo peut-il exister? Il ne peut exister que par l'appréhension du concept d'être. Oui. Et Suarez dit que la métaphysique commence avec le concept d'être. Vous avez le point de départ, le fondement critique, le fondement objectif. C'est intéressant parce que ça nous éclaire ces choses-là. Vous voyez, c'est toujours ce qu'il faut faire. Toute erreur a quelque chose de vrai. Et donc, il faut saisir à l'intérieur de cette erreur ce qu'il y a de vrai. Parce que ça, ça nous permet de comprendre positivement comment on peut arriver à cette attitude-là. Vous voyez, je vous avais déjà dit qu'on comprenait Suarez dans une laïcisation de la pensée de saint Thomas. C'est vrai, il y a ce point de vue-là. Concept d'être fini et infini. Mais si je veux aller plus loin, pourquoi le concept d'être? Pourquoi le concept d'être est-il ce qu'on considère comme premier dans l'attitude métaphysique, dans l'attitude de la philosophie première? C'est parce que justement, c'est la condition sine qua non de toute ma vie intellectuelle. Et donc, si c'est la condition sine qua non de toute ma vie intellectuelle, je ne peux pas aller plus loin. Je suis en face de quelque chose d'absolument fondamental. Mais vous comprenez que ça ne peut pas être le point de départ de la philosophie première dans le réalisme, puisque justement le concept d'être présuppose toute ma vie intellectuelle. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du jugement d'existence, je suis en présence du premier moment, dans le sens le plus fondamental, le premier moment de ma vie intellectuelle, qui dépasse les diverses expériences et qui saisit dans la réalité ce qui, dans la réalité, est autre que moi, autre que ma vie intellectuelle, autre que mon cogito, autre que mon concept d'être. Le concept d'être présuppose le jugement d'existence. Et donc, il ne peut pas être premier. Ou bien alors, il faut dire que le concept d'être est inné. Alors, position de Rosmini. Il faut dire que le concept d'être est inné. Si mon concept d'être est inné, alors très bien, le concept d'être est premier. Mais prétendre que mon concept d'être est inné, c'est un a priori. Je n'ai jamais vu qu'un enfant dans le berceau faisait de la métaphysique. Il avait peut-être un appel à la métaphysique, mais il ne fait pas de la métaphysique. Or, si le concept est inné, eh bien l'enfant, tout petit, fait de la métaphysique. Alors, il ne fait pas de la métaphysique, puisqu'il faut arriver progressivement à découvrir ce lien de l'intelligence avec la réalité. Bon, ceci c'est pour vous montrer et vous rappeler quelque chose qui est important à saisir, que la métaphysique, par rapport aux autres parties de la philosophie, a quelque chose de plus difficile à découvrir. C'est plus facile de partir de l'expérience de ce qui est mu que de partir du jugement d'existence. C'est pour ça que ce jugement d'existence a été oublié. Et c'est pour ça que notre premier devoir au point de vue philosophique aujourd'hui, c'est de le dévoiler. C'est d'essayer de montrer l'importance de ce jugement présent dans toutes mes expériences. Dans toutes mes expériences au sens fort. Parce qu'évidemment, dans mes expériences internes, dans vos cauchemars et dans vos différents rêves, vous n'avez pas le jugement d'existence. Et vous vous réveillez de vos cauchemars quand justement vous arrivez à émettre le jugement d'existence. Ah, c'est pas réel, c'est pas vrai, ce n'est qu'un cauchemar. J'étais dans un autre monde. Et à ce moment-là, vous êtes délivré du cauchemar par le jugement d'existence. Le jugement d'existence vous libère du cauchemar. C'est merveilleux. Vous voyez, vous quittez ce grand nuage noir qui vous engloutit, dans lequel vous avez été pris. Vous quittez cela et puis vous entrez dans le soleil. Et c'est ça exactement. Parce que ce nuage noir qui vous prend, eh bien c'est le rêve, c'est votre imaginaire dans lequel vous êtes pris. Quelquefois, c'est des rêves éveillés, hein, des cauchemars éveillés. Toute la journée, j'ai vécu dans un cauchemar. Je ne me suis pas éveillé. Mon jugement d'existence n'est pas éveillé. Alors, je n'ai pas rejoint le réel. Je suis resté dans le cauchemar. Ça peut arriver, ça. Ça peut très bien arriver. Alors, il faut sortir de ça dans le jugement disant. On exerce son intelligence. On réveille son intelligence au réalisme. Il ne faut pas l'oublier. C'est une ascèse comme une autre. Redevenir intelligent, quoi, tout simplement. Et ne pas rester dans ses rêves. Réveiller votre intelligence par rapport au réel, par rapport à ce contact direct à l'égard de l'autre. Une fois que je comprends que le jugement d'existence est quelque chose de fondamental et quelque chose d'irréductible par rapport à toutes les autres expériences, bien que présent dans toutes mes autres expériences, je comprends qu'il a une valeur unique et que je dois le regarder pour lui-même. Et c'est au moment où je comprends que je dois le regarder pour lui-même que je commence à entrer dans la philosophie première. Alors, je vous ai dit, l'autre entrée, c'est pour le croyant. La foi mûrit notre intelligence et réclame que notre intelligence soit métaphysique. Un vrai croyant doit être métaphysicien. Si on pouvait dire ça, du haut de la chair. Un vrai croyant doit être métaphysicien. Vous comprenez pourquoi? Le croyant, il dit, je crois en un Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu créateur, est-ce que mon intelligence humaine peut l'atteindre ou est-ce que mon intelligence humaine ne peut pas l'atteindre? Je dois tout de suite me poser la question, si je suis un croyant intelligent, c'est-à-dire être un croyant tout court. Si je suis un croyant intelligent, je me pose tout de suite la question, est-ce que mon intelligence est capable d'atteindre l'existence de ce Dieu créateur? C'est impossible autrement. La foi n'éteint pas l'intelligence. Ce n'est pas un éteignoir. La foi éveille l'intelligence. Et donc, si la foi éveille l'intelligence, je dois tout de suite me poser la question. Et c'est en me posant la question, vous voyez, ce n'est pas pourquoi l'être est ou n'est pas, la fameuse question de Leibniz, que Heidegger a repris, ce n'est pas ça la première question au point de vue métaphysique. C'est le jugement d'existence, et la question de savoir si mon intelligence est capable d'atteindre l'existence d'un être premier, qu'on appelle le Créateur. Et alors là, en réfléchissant, parce que ça c'est une attitude réflexive, là encore, vous voyez, mais c'est une attitude réflexive, non pas sur la condition sine qua non de ma vie intellectuelle, mais sur ma capacité intellectuelle. C'est encore autre chose. C'est de savoir la capacité de mon intelligence. Et parce qu'il s'agit de la capacité de mon intelligence, je suis obligé à ce moment-là d'essayer de réfléchir que la seule voie possible pour atteindre l'existence de cet être premier qui m'est donné immédiatement dans la foi, comme le Créateur, c'est la voie de la connaissance de l'être. Je ne peux pas remonter à l'existence d'un être premier en dehors de cette voie de l'être. Ça, nous le verrons, hein, le mercredi, le jeudi, je veux dire, dans le cours sur le point de vue de l'existence de l'être premier. C'est très important à comprendre, ça. Donc, je laisse tomber ici. Mais je voulais simplement vous montrer qu'il y a ces deux moments, l'un qui est ultime, l'autre qui est immédiat. Alors, comme nous sommes les deux, vous comprenez qu'il faut avoir toujours un regard suffisamment lucide en tant que croyant de comprendre que ce problème philosophie première se pose tout de suite. Et si on n'est pas croyant, comprendre que le problème de la philosophie première se pose nécessairement au terme. Puisque toutes mes expériences impliquent le jugement d'existence. Une fois que je me suis posé le jugement d'existence, alors ici je vais aller très vite, puisque nous l'avons vu, ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais ils essaieront de courir par derrière, n'est-ce pas ? Parce que c'est vrai, la métaphysique implique qu'on ait toujours un certain regard. Je ne dis pas de synthèse, c'est faux, mais un regard d'analyse qui va jusqu'au bout. Je ne peux pas, au plan proprement métaphysique, me particulariser en disant « moi je serai le philosophe premier de la substance ». Je ne peux pas faire ça. On reste le philosophe de l'être. Alors c'est important de voir que, après le jugement d'existence, ceci est. Il y a l'interrogation de l'intelligence, qu'est-ce l'être ? Je vous avais dit l'importance de ce passage qui n'a l'air de rien, mais qui est très très important. Alors il faudrait faire la philosophie de l'interrogation. Toute la philosophie contemporaine nous remet en présence de l'interrogation. À ce point de vue-là, on pourrait dire que la philosophie contemporaine reprend le point de départ de Socrate. Pour Socrate, le philosophe, c'est celui qui interroge et qui montre à ceux qui sont autour de lui, ça c'est l'autre aspect, qu'ils ne connaissent rien. Mais faisons attention, hein. Quand on fait cela, il faut être le premier sujet qui ne connaît rien. Le philosophe doit montrer à ceux qui sont autour de lui qu'ils ne connaissent rien. On fait ça pour l'examen. Première chose qu'on fait, montrer que vous ne savez rien. On rétale le candidat, vous montrer qu'il ne sait rien. Alors évidemment, on ne va pas juger la note en fonction de cela. C'est trop facile, au point de vue métaphysique, de pouvoir montrer qu'un étudiant ne sait rien. Parce que c'est vrai, en métaphysique, on ne sait rien. On comprend, mais on ne sait rien. C'est pas commode, hein. On saisit qu'il y a quelque chose, mais on ne sait rien. Alors, le point de vue métaphysique, pour Socrate, commence par l'interrogation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de comprendre que l'interrogation, c'est ce qui me permet de dépasser l'aspect descriptif. Un des grands dangers d'aujourd'hui, hein, à la suite de l'existentialisme, c'est de demeurer dans la description. à cause du psychologisme dans lequel on est, à cause de l'attitude lyrique et poétique, faussement mystique, dans laquelle on est. Alors, à cause de l'Inde, c'est facile, vous savez. Quand on habite l'Inde, soyons parfaitement dedans, mais quand on ne l'habite pas, on risque toujours de prendre ce qu'il y a de plus extérieur et puis d'en faire une mode. Mais au fond, c'est très à la mode aujourd'hui. D'aspect descriptif, l'aspect poétique, l'aspect faussement mystique, il faut appeler les choses par leur nom, et qui consiste tout simplement à rester au niveau descriptif. Je reste au niveau descriptif de ce que représente le jugement d'existence vu à travers toutes les expériences. Expérience extérieure, expérience intérieure. Voyez, le jugement d'existence relié à l'amour. Le jugement d'existence relié au rêve. Et ainsi de suite. Je peux décrire ce jugement d'existence. En lui-même, je ne peux pas le décrire. Mais je peux le décrire quand il est lié à toutes les expériences. Alors, je peux rester uniquement à ce niveau descriptif. Et quand je reste à ce niveau descriptif, je n'entre pas en philosophie. Je peux être un poète, c'est très très bien. Mais alors, à ce moment-là, ne dites pas que vous êtes philosophe. Parce que vous vous revêtez du manteau philosophique, mais en réalité, vous êtes un poète. Alors, écrivez des poèmes. Ayez le courage d'écrire des poèmes. Puis on verra si vous êtes vraiment poète. Parce que vous pouvez toujours vous déclarer poète, mais c'est pas toujours vrai. Hein? Ça peut être un refuge. Vous savez, refugium peccatorum. Hein? Alors c'est le refuge. Alors on se cache dans l'aspect poétique et descriptif. Et on reste dans cet aspect descriptif et poétique. Et en réalité, on ne comprend rien du tout. Mais on se laisse porter le flux et le reflux. N'est-ce pas ? Parce qu'au fond, le descriptif, c'est toujours flux et reflux. Expérience interne, expérience externe. Alors, ça se balance très bien, n'est-ce pas ? On est en deux chevaux métaphysiques, n'est-ce pas ? Alors, on est dans ce flux et le reflux constant. Alors, on voit très très bien comment ça peut se balancer. Voyez, retour au berceau. Alors, l'interrogation a une noblesse. Il faut bien comprendre. L'interrogation a une noblesse qui vous fait sortir de l'aspect descriptif. Alors il faut saisir ce que représente ce moment de l'interrogation. L'intelligence qui interroge. D'où ça vient ? Pourquoi l'intelligence interroge-t-elle ? Il faudrait essayer de faire la critique, vous voyez, de l'interrogation. Qu'est-ce que ça représente, l'interrogation ? Qu'est-ce que ça représente ? Cet appétit de l'intelligence. Une intelligence en appétit. En appétit de vérité. En appétit de connaissance. L'intelligence qui interroge. L'intelligence qui veut dépasser l'aspect descriptif, parce que tant que je suis en face de l'aspect descriptif, je n'interroge pas. Je décris. Et c'est très vrai, on décrit, on suit. Tandis que quand j'interroge, je m'arrête. C'est l'intelligence qui s'arrête. Et c'est l'intelligence qui veut aller plus loin. C'est donc une intelligence qui devance, qui veut devancer l'aspect de la description, qui veut aller plus loin. Alors, c'est cet appétit de l'intelligence. C'est la vitalité de l'intelligence. L'appétit de l'intelligence, c'est la vitalité de l'intelligence. C'est l'intelligence qui veut dépasser l'aspect descriptif et qui se pose l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? À partir de mes multiples expériences et à partir de ce jugement d'existence que je retrouve à travers toutes mes expériences, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? J'interroge. Vous savez, il y a eu tout un courant du thomisme avec le père Rousselot, le père Maréchal, un courant du thomisme qui aujourd'hui est peut-être moins présent qu'il l'a été, mais qui a été très très fort à un moment donné, qui était très intéressant. Tout ce courant du thomisme voulait renouveler le thomisme par le point de vue de l'appétit de l'intelligence. Et ils ont été comme des précurseurs, sous ce point de vue-là, de la mise en lumière de l'interrogation. La seule difficulté qu'il y avait chez eux, c'est que justement, ils ne distinguaient pas assez, et je crois que c'est là l'erreur, entre ce que représente le jugement d'existence et l'interrogation. C'est l'interrogation qui nous met en présence de cet appétit naturel de l'intelligence. Quand je dis appétit naturel, ça veut dire tout simplement l'intelligence telle qu'elle est, comme une qualité particulière qui a une capacité de connaître. L'intelligence veut connaître. Vous savez la fameuse parole d'Aristote au début de la métaphysique ? Tout homme a un désir naturel de connaître. Ce désir naturel de connaître, à quel moment nous saisissons le mieux, c'est dans l'interrogation. Il y a un désir de dépasser ce que je décris. Quand je décris, je connais. Je connais extérieurement, je connais superficiellement. Je ne connais pas vraiment. Mon intelligence n'est pas dans son attitude la plus profonde qui veut justement aller au-delà du visible pour essayer de saisir qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent. Une intelligence qui interroge est une intelligence donc en appétit d'intelligence qui veut aller au-delà du visible pour saisir ce qu'il y a de profond, de radical, s'il y a quelque chose de profond. S'il y a quelque chose de radical, je peux interroger, parce que ça peut très bien se faire qu'il n'y a rien de profond et de rien de radical. Et alors à ce moment-là, mon interrogation serait une pure interrogation. Mais c'est déjà beau l'interrogation, hein, même quand il n'y a pas de réponse. C'est très beau parce que c'est l'intelligence qui veut aller au-delà de l'aspect purement descriptif. Donc c'est une intelligence qui s'élève. Alors, on peut se poser la question d'où vient l'interrogation. C'est vrai, comment se fait-il que mon intelligence soit en appétit? Pourquoi je ne suis pas toujours en appétit? En appétit de connaître. Il faut quelque chose pour éveiller cet appétit. Il faut quelque chose pour que l'intelligence interroge. Pour que l'intelligence soit capable de prendre conscience. Parce que l'interrogation, elle est consciente. Je suis conscient d'interroger. Que l'intelligence est toujours dans un jugement que se fait l'interrogation. Que l'intelligence soit consciente d'interroger et qu'elle soit consciente de ce dépassement. Comment se fait cela? Comment je puis m'éveiller à l'interrogation? Parce que certains peuvent très bien ne jamais interroger. Ils sont restés là, au fond, après tout. Moi, j'aime de décrire et puis c'est tout. Je ne comprends pas du tout ce que c'est que l'interrogation. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Je ne vois pas du tout l'intérêt qui a interrogé. Je ne vois pas du tout l'intérêt qui a dépassé l'aspect descriptif. C'est tellement plus simple de décrire et puis c'est tout. Pourquoi vouloir aller plus loin? Alors, il faut donc éveiller cet appétit de l'intelligence. Comment s'éveille un appétit? Comment s'éveille un appétit? Le bien, c'est ce que tous désirent. Et donc, pour que l'appétit de l'intelligence s'éveille, il faut que l'intelligence comprenne que la vérité est son bien. Autrement, il n'y a pas moyen autrement. Si vous n'avez aucun sens de ce que c'est que la vérité comme étant votre bien, le bien de l'intelligence, il n'y a pas d'éveil de l'appétit de l'intelligence. Alors, il faut que l'intelligence comprenne que la vérité est son bien propre. Et comment l'intelligence va-t-elle découvrir que la vérité est son bien propre? Parce que c'est vrai, comment l'intelligence va découvrir que la vérité est son bien propre? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, cela? Vous voyez, je cherche toujours qu'est-ce qu'il y a de premier. Est-ce que c'est quelque chose d'inné, que l'intelligence découvre immédiatement que la vérité est son bien propre? C'est pas si commode que ça, découvrir ça. Alors, vous connaissez ce que dit Aristote, hein? On va d'abord regarder ça et voir si c'est tout à fait juste. Que pour qu'il y ait l'interrogation, il faut qu'il y ait l'admiration. Pour qu'il y ait l'interrogation, il faut qu'il y ait l'étonnement. S'il n'y a pas d'étonnement, s'il n'y a pas d'admiration, il n'y aura jamais d'interrogation. Un être blasé n'interroge plus. N'interroge plus du tout. Il est mieux de rester dans son cocon. Tu vois? Parce que là, il s'endort. Il est blasé. Alors, s'il n'y a pas d'admiration, il n'interroge pas. Alors, l'admiration, c'est d'ordre affectif. C'est une affectivité, l'admiration. L'admiration provient d'une première connaissance et de découvrir que dans cette connaissance, il y a quelque chose que je ne connais pas. Vous voyez l'attitude de Socrate. Montrez que vous ne connaissez pas pour susciter l'admiration. Il était en face des sophistes. Nous sommes en face de sophistes aujourd'hui, nous aussi. De gens qui croient tout connaître. Parce qu'ils décrivent tout. Alors ils croient tout connaître. Il faut leur montrer qu'ils ne connaissent pas tout. Il faut donc montrer une brisure d'une non-connaissance, d'une ignorance, parmi les choses tout à fait élémentaires, pour réveiller l'admiration. S'il n'y a pas un éveil de l'admiration en face de réalité que je connais et de réalité que je ne connais pas, il n'y aura jamais d'admiration. Si vous croyez tout connaître, il n'y aura jamais d'étonnement et d'admiration. Il faut donc, à partir de mes expériences, comprendre par le jugement d'existence le hiatus qui existe entre l'expérience multiple et ce jugement d'existence profond. Voir qu'il y a un abîme entre les deux. Je connais le ceci, oui, ça je peux le connaître. Le ceci, c'est telle ou telle détermination. Mais l'être présent dans le ceci, l'exister présent dans le ceci, il m'échappe. Je n'arrive pas à le connaître. Il y a donc, à partir de là, une certaine admiration, un certain étonnement vis-à-vis du fait que l'exister est présent dans toutes mes expériences et qu'il est divers dans toutes mes expériences. Il est le même et il est divers. Et alors à ce moment-là, je commence à être dans l'état d'admiration et d'étonnement. Si je n'ai pas cet état d'étonnement et d'admiration, je ne poserai jamais l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Je peux la répéter, ça c'est facile. J'ai entendu qu'on disait l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Alors je répète. Mais si vous répétez, vous n'entrez pas dans ce que représente cette interrogation. Cette interrogation n'est pas quelque chose de vital en vous. Et si cette interrogation n'est pas quelque chose de vital en vous, elle ne sert à rien. Vous répétez les mots. Mais en répétant les mots, vous n'entrez pas dans ce que représente l'âme de cette interrogation. Ce que signifie cette interrogation. Pour que cette interrogation soit quelque chose de vital en vous, il faut l'admiration et l'étonnement. Mais le côté affectif, et ça c'est vrai, si on ne s'intéresse pas à ce qu'on fait, on restera toujours au niveau descriptif. Et on n'ira jamais plus loin. Si au contraire, il y a un éveil du côté affectif et donc un aspect d'admiration et d'étonnement, alors il y a quelque chose qui suscite mon intelligence, qui la révèle. Au fond, l'interrogation, c'est une intelligence éveillée. Et c'est pour ça que c'est l'appétit de l'intelligence. C'est l'intelligence qui veut aller le plus loin possible. Oui, très bien, donc je vois l'éveil de l'intelligence par l'admiration. Mais comment se fait que cet éveil de l'intelligence pose nécessairement le point de vue de la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'être? D'où ça vient, ça? Alors, est-ce que l'être est présent dans la vie de l'intelligence? Tout de suite, dès le point de départ, cet appétit de l'intelligence se regarde vers l'être, vous voyez? La fameuse phrase de l'intelligent de saint Thomas, cette fameuse phrase, hein? Primo cadit in intellectus ens. Je crois qu'il faudrait la mettre là pour qu'on comprenne cette phrase, hein, parce qu'on la répète. On fait des thèses dessus. C'est très très bien de faire des thèses là-dessus, de voir que saint Thomas l'a employé 175 fois. C'est très très bien, mais ça ne fait pas comprendre ce que ça veut dire. Hein. C'est vrai que je crois que c'est la phrase que saint Thomas a répétée le plus. Primo cadit in intellectus ens. Donc, si vous êtes thomiste, vous répétez « Primo cadit in intellectus ens ». La première chose qui tombe dans l'intelligence, « cadit », c'est « ens ». C'est curieux, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Si c'est « Primo cadit in intellectus », je comprends très bien. Si c'est ce caillou qui tombe dans le puits, n'est-ce pas, et une intelligence qui est très très profonde, dont on ne voit pas les limites, alors ça tombe dedans, la réaction, le petit jet d'eau, qu'est-ce que c'est que l'être, hein? Vous voyez la réponse, hein, immédiatement. Primo cadit in intellectus ens. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? On voit la réaction de l'intelligence, la réaction vitale de l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'être? Quand saint Thomas dit ça, primo cadit in intellectus ens, qu'est-ce que ça veut dire? Saint Thomas prend ça à Avicenne. C'est Avicenne qui a dit ça. Et il l'a dit dans la ligne, si vous voulez, d'une philosophie première de l'être. Comment se fait-il que la première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est l'être? Ça veut dire que dans toutes les expériences que j'ai, l'intelligence saisit dans ces expériences quelque chose de l'être. C'est ça que ça veut dire. Qu'à travers toutes mes expériences, je saisis quelque chose de l'être. Hence, ce qui est. Je ne le saisis pas à l'état pur, hein, puisque l'être à l'état pur, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Ça ne peut pas exister, l'être à l'état pur. Donc, c'est jamais hence à l'état pur. C'est pas l'être en tant qu'être qui tombe dans l'intelligence en premier lieu. C'est hence in communi, comme disait Scolastique. L'être tout à fait commun, c'est-à-dire ce qui est présent à toutes mes expériences. Et c'est ça que l'intelligence saisit en premier lieu, l'hameçon. Vous voyez? L'intelligence saisit ça tout de suite. Primo cadit in intellectus. Alors je comprends, si c'est vraiment ce que l'intelligence saisit en premier lieu, à travers toutes mes expériences, je comprends que dès que je mets en lumière le jugement d'existence, ceci est, immédiatement l'intelligence qui a déjà saisi ce qui est. L'intelligence veut aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'être? Alors là, elle le pose dans toute sa pureté. Elle formalise le « ens » saisi à travers toutes les expériences, l'être saisi concrètement à travers toutes mes expériences, l'exister de toutes les réalités, elle le saisit à travers toutes ses expériences, et alors, grâce à l'admiration, grâce à l'étonnement, comment se fait-il que cet être, c'est ce qu'il y a de plus commun et c'est ce qu'il y a de plus actuel? C'est ce qu'il y a de plus original. Pourquoi? D'où l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez? Alors ça, je crois très important pour nous de voir la naissance de cette interrogation. Voir la naissance de cette interrogation pour comprendre comment l'intelligence, quand elle entre en philosophie première, veut retrouver ce qu'il y a de plus natif en elle, donc cette plus fondamentale en elle. La métaphysique n'est pas, la philosophie première n'est pas quelque chose qui s'ajoute, mais c'est quelque chose qui se découvre comme fondamental à la vie de l'intelligence. L'intelligence ne peut être elle-même que quand elle pose cette question, tant que l'intelligence ne s'est pas posée cette question en toute vérité, l'intelligence reste superficielle. C'est en posant cette question, qu'est-ce que c'est que l'être, que l'intelligence découvre son appétit fondamental. Elle est faite pour l'être. Il y a une relation profonde entre l'intelligence et l'être. Et il faut donc découvrir cette relation. L'intelligence ne peut se découvrir à elle-même, se connaître elle-même, que dans la mesure même où elle découvre ce qui est, du point de vue de l'être. Donc dans la mesure où elle entre en communion intellectuelle, pas affective, en communion intellectuelle, donc en toucher de l'intelligence vis-à-vis de ce qui est du point de vue de l'être. C'est pour ça que c'est si important cette interrogation. Parce que l'intelligence prend pour la première fois, si vous voulez, dans cette interrogation, elle prend conscience que ce qu'il y a de plus fondamental en elle est relatif à l'être. Alors, tant que l'intelligence ne découvre pas ça, vous voyez, elle ne peut pas voir l'importance de la philosophie première. On fait de la métaphysique parce qu'il faut en faire. Parce qu'il y a un cours de philosophie première, alors on le fait. On ne voit pas du tout que c'est l'intelligence qui se découvre à elle-même dans ce qu'elle a de foncier, dans ce qu'elle a de premier, dans ce qu'elle a de plus vital. Et que la philosophie première, c'est donc la philosophie de l'intelligence.